Tout d'abord, les salutations des frères et sœurs d'Aix-en-Provence, de l'Église libre, qui vous saluent et qui continuent à prier pour vous et pour les autres frères et sœurs. Et puis, de notre part, la part de Geneviève et moi-même, eh bien, nos vœux et nos prières pour une année remplie de la grâce du Seigneur ici à Cavaillon. Pour ceux qui suivent donc dans la parole, vous voyez avec les questions que Lucas vient de distribuer, nous sommes aujourd'hui dans le chapitre 7. Le chapitre 7 du livre des Juges. Et le titre que j'ai choisi pour le message du jour, c'est « Méthode de guerre originale ». Si le sixième chapitre du livre des Juges introduit l'histoire de Gédéon avec suffisamment de détails pour nous interpeller quant à la fragilité de la foi de l'homme et à la grandeur de la fidélité de Dieu, on peut affirmer que le septième chapitre révèle l'aboutissement de la combinaison de cette fragilité et de cette fidélité. Oui, c'est ici le chapitre qui est au centre de l'histoire de Gédéon. Le chapitre que nous connaissons le mieux. Le chapitre de l'attaque surprise au milieu de la nuit, de l'affolement général de l'ennemi, de la victoire incroyable d'une poignée d'hommes sur une multitude. Victoire qui ferait même pâlir la gloire d'un Henri V à Azincourt. Devant une histoire comme celle-là, il faut simplement écouter et réécouter, s'imprégner des détails afin que notre mémoire y ait de bonnes prises. Puis, nous émerveiller de la grandeur de Dieu pour nous convaincre que le pouvoir de l'homme en comparaison est ridicule. Faisons-le donc en parcourant le récit étape par étape et en essayant d'en comprendre au moins quelques-uns des détails. J'ai confié les lectures à différents lecteurs et la première lecture sera donc les versets 1 à 8. Je crois que c'est Eliane qui va lire. Oui.
Yéroubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Haroth. Le camp de Madian était au nord du sien, depuis la colline de Morée jusque dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Israël pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a sauvé. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et tremblant s'en retourne directement de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et tout homme dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Il fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lape le chien, place-les à part de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui la perdent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire l'eau. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Ils prirent les provisions et les corps que le peuple avait dans les mains. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et retint les 300 hommes. Le quart de Madian était au-dessous de lui dans la vallée.
Merci beaucoup, Eliane. Drôle de préparation pour une bataille, n'est-ce pas? Oh, je ne vous parle pas de l'emplacement des deux armées. Là, tout est normal. Les troupes de Gédéon sont campées au sud-est de la vallée d'Israël, certainement sur les flancs du mont Gilboa, pas très loin en fait, du mont Tabor, où eut lieu, et nous l'avons vu ensemble dans cette salle, la grande victoire de Barak et de Déborah. Les Madianites et leurs alliés se sont choisis leur propre montagne, en face, au nord de la vallée, à quelques 7 kilomètres du camp d'Israël, sur les flancs de ce qu'on appelle aujourd'hui le Petit Hermon. La seule différence, c'est que ils sont si nombreux qu'ils ne tiennent pas sur la montagne, mais débordent carrément sur la vallée elle-même. C'est ce qui suit, cependant, qui est plus étonnant. Je ne sais pas si Gédéon, au début, avait déjà formé un plan d'attaque, mais si c'est le cas, il est obligé, par le premier ordre de Dieu, après l'installation du camp, de se raviser. L'armée est trop nombreuse, dit-il. Il faut élaguer. Comment ? Il a fallu tout ce temps de souffrance, au moins 7 années de déprédation de la part de ces peuples nomades, toute cette préparation afin que le chef soit prêt à lancer la convocation, et maintenant, il faut renvoyer les hommes à la maison ? Oui, dit l'Éternel, car il ne veut pas que la victoire se transforme en désastre. Ce qui serait inévitablement le cas si les hommes d'Israël s'en attribuaient la gloire. Regardez un peu ce que nous savons faire quand nous nous organisons un peu. Combien on oublie vite les années de défaite. Et combien l'homme a tendance à chercher par tous les moyens à s'attribuer ses propres succès, à ne devoir son salut qu'à lui-même. Pour réduire le nombre une première fois, Dieu applique tout simplement un principe militaire, principe qu'il a tout de même inscrit dans sa parole. En effet, en Deutéronome, chapitre 20 et verset 8, nous lisons les paroles suivantes. « Les officiers continueront à parler au peuple et diront « Qui est-ce qui a peur et qui manque de courage ? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. » Le comportement des Madianites lors de la bataille confirme la sagesse de cette instruction divine. Mais cela a quand même dû bouleverser Gédéon de découvrir que plus que les deux tiers de ses troupes, c'est-à-dire 22 000 sur 32 000, étaient prêts à profiter de cette invitation. Relevons tout de même à leur décharge qu'il s'agit là non pas de soldats entraînés, mais de petits agriculteurs, sans doute mal armés, sans doute appelés à se battre pour la toute première fois de leur vie. Il reste donc 10 000 hommes. C'est peu contre un ennemi si nombreux, mais c'est quand même une vraie armée. Justement, dit l'Éternel, vous êtes encore bien trop pour accomplir ma mission. Alors, descendez à la source pour boire. Et je ferai un second tri. Or, ce tri-là, il est plutôt radical. Et les détails donnés sont un peu difficiles à suivre, si bien que les commentateurs ne sont guère d'accord sur les explications. Est-ce un tri arbitraire dont le but serait simplement de réduire les effectifs, ou y aurait-il à nouveau tout de même un bon principe militaire derrière le tri, permettant de sélectionner les hommes qui savent se retenir, rester sur leur garde, même quand ils ont très soif? Ceux qui lappent comme un chien sont retenus. Mais l'homme ne lappe jamais comme un chien. Sa langue n'est pas façonnée pour lui permettre de faire ça. Donc il n'y a personne qui a lappé comme un chien. Puis, de toute façon, ce sont ceux qui se mettent à quatre pattes, à genoux, qui seraient éventuellement en position pour lapper et ressembler à des chiens. Et ceux-là sont manifestement les hommes les moins préparés à une attaque surprise. Ceux qui portent l'eau à la bouche semblent être les heureux élus. Mais, vous l'avez déjà fait, n'est-ce pas? Quand on porte l'eau à la bouche, eh bien, on ne lappe pas. On aspire l'eau. On fait une tasse avec ses mains et on boit comme à la tasse. À moins que, et cela semble être, après tout, l'explication la plus probable, l'action même de porter la main, l'eau, avec la main à la bouche, ne ressemble le plus au lapement du chien, qui lui porte l'eau à la bouche avec sa langue. Dans ce cas, ce sont ceux qui restent debout, qui ressemblent au chien, et qui boivent par petites quantités, et qui restent sur leur garde. Mais ils ne sont que 300 sur 10 000. Et c'est bien cette réduction de 10 000 à 300 qui est le but recherché par Dieu. De cela, en tout cas, nous pouvons être certains. Pourquoi? Parce qu'avec 300 hommes et un peu de foi, Dieu peut travailler. Et personne ne pourra dire après coup que la victoire provient de la force de l'homme. Manifestement, Gédéon se soumet à la consigne. Et avant de renvoyer 9700 hommes de plus, invente vite fait une nouvelle tactique sur la base de ce petit effectif. Comme tous les hommes ne sont pas équipés d'un corps et d'une cruche à provisions, les 300 hommes qui restent avec Gédéon demandent à ceux qui vont repartir de leur passer assez de corps et assez de cruches pour que chacun d'eux puisse avoir un exemplaire des deux choses. Ensuite, le gros de l'armée s'en va et les 300 restent pour affronter les hordes nomades. Notons que ce n'est pas du tout une mauvaise chose que de former un plan. Gédéon, sans doute inspiré par le Saint-Esprit, possède une certaine perspicacité militaire et il doit mettre ce don au service de l'Éternel. Dieu s'y attend, car c'est là la mise en pratique de la foi de Gédéon. Dieu ne s'attend pas du tout à ce que l'on range, nous, au placard, l'équipement qu'il nous a donné, y compris notre intelligence. Ce n'est jamais en agissant en insensé spirituel que l'on peut l'honorer, celui qui nous a créés tels que nous sommes. Mais il y a encore une question. La prochaine question, c'est de savoir, maintenant que cette petite armée est prête, la question, c'est de savoir si le général est prêt. Il semblerait, d'après la suite, qu'il y a encore un petit travail à faire. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a le prochain passage, des versets 9 à 15. C'est Anne. Merci Anne.
Cette nuit-là, l'Éternel dit à Gédéon : va, descends attaquer le camp madianite, car je vais vivre en ton pouvoir. Cependant, si tu as peur d'y aller, vas-y d'abord avec ton serviteur Pourra. Écoute ce qu'ils disent et cela t'encouragera. Tu descendras ensuite attaquer le camp. Gédéon descendit donc avec son serviteur Pourra jusqu'aux avant-postes du camp. Les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Orient étaient répandus dans la vallée en aussi grand nombre qu'une nuée de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable au bord de la mer. Gédéon s'approcha et y entendit un homme raconter un rêve à son camarade. « Écoute, disait-il, j'ai fait un rêve. Je voyais une miche de pain d'orge rouler à travers le camp de Madian. Arrivée à la tente, elle l'a frappée de plein fouet, l'a fait tomber et l'a renversée sens dessus dessous, si bien que la tente était par terre. » Son camarade répondit, « Cela ne représente rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël, à qui Dieu donne la victoire sur Madian et toute l'armée. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son interprétation, il se prosterna, puis il retourna au camp d'Israël et cria « Tout le monde debout, car l'Éternel vous donne la victoire sur l'armée de Madian. »
Merci Anne. Combien de fois n'a-t-il pas fallu que Dieu prouve à Gédéon que c'était bien lui qui l'appelait? C'était bien lui qui l'envoyait. Il y a eu déjà 3 ou 4 interventions spectaculaires non sollicitées. La visite de l'ange, la transformation du cœur de Joas, père de Gédéon, l'obéissance des tribus à l'appel de Gédéon, et encore 3 miracles spécifiquement demandés par Gédéon. Le sacrifice offert à l'ange et 2 miracles de la toison et de la rosée. Pourtant, voyant notre héros toujours hésitant au moment de devoir descendre vers le camp ennemi, Dieu, de son propre chef, lui propose un encouragement de plus. Avec son aide de camp personnel, pourra, Gédéon s'avance jusqu'aux avant-postes du camp des Madianites, où il entend une discussion entre 2 sentinelles. L'une raconte à l'autre un rêve fait concernant Israël, rêve dont le compagnon est capable de donner l'interprétation. Très pessimiste de son point de vue. Comme l'on croyait au Moyen-Orient que les rêves venaient de Dieu et pouvaient ou devaient être interprétés, cet incident avait un grand poids pour Gédéon. D'autant que c'est Dieu qui l'envoie et qui confirme ainsi que le rêve est bien de lui. Selon ce rêve, un pauvre petit pain d'orge. L'orge est la récolte principale des agriculteurs israélites. Et n'ayant que la moitié de la valeur nutritive du froment, pouvait normalement être un symbole de leur pauvreté et de leur faiblesse. Ce petit pain d'orge, donc, descend de la montagne en roulant, puis heurte et renverse une grosse tente. Nous, en Occident, on dirait, ah, preuve que c'est une fabrication chinoise. Mais non, ce n'est pas ça. C'est que par un petit pain d'orge d'Israël, Dieu peut renverser une grande armée. Il n'est pas difficile, donc, de comprendre qu'un peuple nomade représenté par cette tente, une petite force de fermiers israélites est représentée par le pain d'orge. La sentinelle comprend le rêve ainsi. De même que Gédéon, qui en remercie Dieu sur le champ, et qui s'en va précipitamment partager sa conviction, toute renouvelée avec ses 300 hommes. Dans ce passage, Dieu montre sa souveraineté. Il envoie sa vision et même l'interprétation de sa vision à qui il veut. Y compris quand il l'a décidé, comme c'est le cas ici, à un païen qui ne sait quasiment rien à son sujet. En même temps, Dieu, qui connaît la faiblesse de son serviteur, qui a même décidé de montrer sa puissance à travers cette faiblesse, nous rappelle qu'il a compassion de ce serviteur dans toute sa faiblesse et peut agir cette fois sans que Gédéon le demande, pour le rassurer. Après cette démonstration de souveraineté et de compassion, il s'agit pour Gédéon de passer à l'exécution de son plan d'attaque. C'est la prochaine lecture, les versets 16 à 22.
Gédéon répartit les 300 hommes en trois groupes et leur remit à tous des trompettes ainsi que des cruches vides avec des torches dans les cruches. Gédéon leur dit : Vous me regarderez, vous ferez comme moi. Dès que je serai arrivé aux abords du camp, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette, ainsi que tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz : Pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent aux abords du camp peu avant minuit, alors qu'ils venaient de remplacer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois groupes sonnèrent alors aussi de la trompette et brisèrent les cruches. Et prenant de la main gauche les torches et de la main droite les trompettes dont ils devaient sonner, ils s'écrièrent « À vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon !» tout en restant chacun à sa place autour du camp. Le camp tout entier se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent une nouvelle fois de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel fit en sorte que les hommes tournent l'épée les uns contre les autres. Et les hommes du camp s'enfuirent vers Bethsita, vers Tserera, jusqu'aux abords d'Abel-Méola, près de Taba.
Merci beaucoup, Paul. Une bataille étrange et merveilleuse. Que faut-il ajouter à un tel récit ? La main de Dieu est à l'œuvre. Là, il n'y a pas de doute. Il se sert souverainement de la discipline des uns et de l'affolement des autres. Ordre et maîtrise de soi sont, et nous le savons aujourd'hui, nous, peuple de la Nouvelle Alliance, ordre et maîtrise de soi sont le fruit du Saint-Esprit. Et la foi est le bon sol dans lequel ils peuvent se développer. Il fallait que la foi de Gédéon passe de la formulation d'un plan intelligent à l'exécution de ce plan. Hélas, combien de fois nous autres aujourd'hui, nous avons tendance à nous arrêter au plan. Gédéon, lui, a réussi ce passage et ses hommes, sans doute inspirés par son exemple, lui ont obéi à la lettre. La panique des Madianites et des Amalécites ne les a pas poussés à quitter leur poste. Ils sont restés immobiles pendant l'affolement des autres. Pourtant, vous imaginez la tentation lorsqu'ils voient des hommes courir tout près d'eux peut-être, ayant peur et à leur merci. Mais ils sont restés immobiles et ils sonnaient et ils criaient à tour de rôle. Il fallait qu'ils attendent que la déroute soit complète. La panique, elle, ne peut rien construire, ne sert qu'à affaiblir, à désorganiser, à détruire la confiance et la paix. La réaction des ennemis d'Israël, ici, nous sert de rappel que nous aussi, nous devons rester fermes et calmes devant l'affolement de notre siècle. Ce sera là une preuve supplémentaire de notre foi, de notre soumission à la parole de Dieu qui, elle, ne change pas. Mais lorsque le camp des Madianites est à moitié détruit, complètement abandonné, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut parachever la victoire, bien entendu. Comme les troupes sont restées disciplinées et calmes, sonnant leur corps et poussant leur cri de guerre tour à tour, tous les soldats sont immédiatement disponibles lorsque Gédéon passe à l'organisation de la poursuite des fuyards. Mais il y a un détail qu'il ajoute, et c'est ce détail que Lucas va nous donner, les versets 23 à 25.
Les hommes d'Israël, les hommes des tribus de Nephtali, d'Aser et de tout Manassé se rassemblèrent et poursuivirent les Madianites. Gédéon envoya des messagers dans toute la région montagneuse d'Éphraïm pour dire « descendez à la rencontre des Madianites et coupez-leur les passages de l'eau jusqu'à Beth-Bar, tout le long du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent des guets du Jourdain jusqu'à Beth-Bar. Ils capturèrent deux chefs de Madian appelés Oreb et Zeeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et Zeeb au précipice de Zeeb. Ils poursuivirent les Madianites et ils apportèrent la tête d'Oreb et de Zeeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain.
Merci Lucas. Les noms des lieux que Lucas et Paul ont vaillamment lu tout à l'heure indique que les nomades s'enfuient en toute logique vers l'est et le sud-est, cherchant à retourner là d'où ils sont venus. Les lieux nommés sont tous en Transjordanie. Et nous comprenons tout de suite pourquoi Gédéon agit de manière décisive pour leur couper autant que faire se peut les passages du Jourdain. Pour ce faire, il fait appel à ceux qui avaient déjà été appelés et ensuite renvoyé à la maison, ainsi qu'à ceux qui n'avaient pas osé appeler au tout début. Il y a de la place pour d'autres membres du peuple à d'autres stades de la bataille. Et ce n'est pas parce que l'on ne fait pas partie d'une élite de choc que Dieu n'a pas de place pour nous dans sa campagne. Et la place est d'importance, comme en témoigne ici la capture et l'exécution de deux des chefs de l'ennemi par les Éphraïmites, pourtant les derniers appelés. Quelles sont donc pour nous les leçons de ce récit ? Dans un récit historique, il y a souvent une multitude de leçons. Mais si on veut les retenir, il faut parfois sélectionner. C'est pour cela que j'ai choisi trois enseignements rappelés ou illustrés par ce passage qui nous sera très utile de méditer, puis, j'espère, de vivre. D'abord, où se trouve la victoire ? C'est la première, et la première, la plus importante des leçons. Oui, la vérité la plus éclatante et la plus centrale de ce récit historique, c'est évidemment que la victoire est en Dieu seul. Avec 300 hommes, on n'inflige pas une déroute à des dizaines de milliers de Madianites, à moins que Dieu ne soit de la partie. Le plus grand danger pour l'homme, et pensez un peu à notre société sous cet angle, le plus grand danger pour l'homme, c'est de penser qu'il a en lui les moyens de réussir, de triompher, de surmonter toutes les difficultés, de décider lui-même du bien et du mal. Dieu souligne ce danger quand il prépare son peuple à entrer dans la terre promise. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Deutéronome chapitre 8, verset 17. Dans l'Ancien Testament, nous voyons souvent que même les plus grands rois, comme David, ou le plus grand des prophètes, Moïse, connaissent difficultés et défaites lorsqu'ils oublient de se soumettre complètement à Dieu, de le consulter, se basant sur leur expérience passée ou sur les preuves déjà faites par telle armée ou telle tactique. Quant au Nouveau Testament, qui sont les hommes que Jésus doit renvoyer, sinon ceux qui comptent sur leur propre force pour plaire à Dieu, comme les pharisiens ou même le jeune homme riche? Oui, la victoire est en Dieu seul, et chaque fois que nous voyons la croix, nous devrions y penser. Aucun de nous ne pouvait accomplir cette victoire-là. Dès la lecture du verset 2, et c'est le verset clé de notre passage, dès la lecture du verset 2 de notre passage, notre regard est orienté vers l'œuvre de salut que Dieu seul accomplit. Gédéon, comme les autres juges, nous pousse à nous rappeler qu'aucun de nos actes, aucun de nos exploits de foi, aucune de nos victoires personnelles n'apporte de contribution quelconque au salut unique accompli par Jésus-Christ. En même temps, ce récit rappelle que Dieu a également choisi de se servir de son peuple pour accomplir la victoire qui lui appartient entièrement. Dieu s'est donné beaucoup de mal pour préparer Gédéon afin qu'il puisse se servir de sa faiblesse, certes, mais aussi de sa foi, de son obéissance, de son intelligence, de son acharnement, de son opportunisme. Si Gédéon avait refusé à la fin d'aller à la bataille, Dieu aurait sans doute trouvé un autre instrument. Mais on ne sait pas au bout de combien de temps, de combien d'années de souffrance de plus. Or, vous le savez comme moi, notre pays est en souffrance. Quelle démarche de foi Dieu attend-il de la part de son peuple aujourd'hui afin de briser le joug de l'humanisme et de la laïcité qui nous étouffe, nous écrase, nous enlève la vie? Serions-nous peut-être, même dans notre petite communauté locale, une cause d'attente, de prolongation de la souffrance? Une deuxième leçon, moins centrale, certes, mais non sans lien avec la première, nous rappelons elle aussi à quel point notre attitude fondamentale dans la vie doit être empreinte d'humilité. Cette deuxième leçon est soulignée au verset 15. Quand Gédéon eut entendu le récit du rêve et son interprétation, il s'inclina jusqu'à terre pour remercier Dieu. Puis il retourna au camp israélite et cria « Debout ! Le Seigneur vous a livré le camp madianite !» J'aurais pu souligner la foi de Gédéon à ce stade de son aventure, car elle est enfin vigoureuse, certaine de la victoire avant que la bataille ne commence. Ce qui me paraît encore plus frappant, peut-être parce que cela est trop souvent oublié dans notre vie de disciples, c'est la leçon de louange et de reconnaissance livrée par Gédéon ici. Comprenons enfin l'immensité de la souveraineté, de la bonté et de la miséricorde de Dieu envers lui et envers Israël, et malgré l'excitation d'une bataille historique imminente, Gédéon se prosterne et remercie son Créateur et son Sauveur. Il n'attend donc pas la fin d'épreuve. Il n'attend pas jusqu'à ce qu'il soit tiré d'affaire pour reconnaître que Dieu est la source de son salut et que la victoire lui appartient de A à Z. Vous vous rappelez ces paroles ? Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Oui, nous connaissons ce verset du verset 4 du psaume 18. J'ai dit en lui, qui est en train de grandir dans sa foi, le met en pratique, bien avant que David n'ait eu l'occasion de le rédiger. N'est-ce pas également cette leçon que Paul veut nous communiquer dans ses versets sur la prière de l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7, passage si souvent cité? Lorsque nous rendons grâce à Dieu en toutes circonstances, c'est alors qu'une paix inébranlable nous envahit. Et la troisième leçon? La troisième leçon, c'est la leçon de l'importance de tout le corps de Christ. Des versets 22 à 25, le passage que Lucas nous a lu, nous avons l'illustration du principe du corps. Dieu accomplit la victoire, certes, mais il a décidé d'y associer tout un peuple, le corps de son Église. Gédéon et ses 300 hommes avaient un rôle à jouer dans cette œuvre de délivrance, mais ce passage-là, versets 22 ou 23 à 25, illustre clairement qu'il reste d'autres rôles et que ceux qui avaient été rejetés pour l'initiation de la bataille, Nephtali, Aser, Manassé, sont rappelés pour sa conclusion. Même Éphraïm, totalement négligé lors du premier rassemblement, est à présent appelé aux armes, appelé en réalité à jouer un rôle crucial, permettant que la victoire soit définitive. Comme Gédéon sera appelé à le souligner au chapitre 8, ce ne sont pas du tout les derniers appelés qui accomplissent forcément les tâches les moins glorieuses. Cette leçon est en réalité un développement de l'enseignement principal du passage. Dieu sauve en révélant sa puissance à travers la faiblesse de ses agents. Dans le corps de Christ, les forts et les faibles, les premiers et les derniers, ont tous leur place. La vérité, c'est que tous sont faibles, de toute manière, leur rôle étant différent. Voilà tout. Je cite un passage de l'Épître aux Romains. « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon, en vue de l'édification, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. » Or, tout ce qui a été écrit d'avance, y compris le passage des juges que nous venons de lire, l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Faut-il rappeler que l'apôtre Paul lui-même, missionnaire hors pair du livre des Actes, est le dernier apôtre appelé ? Celui qui arrive après la bataille de la croix ? Celui qui se décrit lui-même comme un avorton. 1 Corinthiens 15, verset 8. Oui, la fin de la bataille ici nous enseigne que dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin de révéler sa sainteté, sa majesté, sa miséricorde, sa justice, son salut, il y a de la place pour l'ensemble de son peuple. Concluons donc que Gédéon nous rappelle que nous sommes au bénéfice d'une victoire qui appartient à Dieu seul. Que notre rôle, c'est de le remercier, de louer notre Dieu à tout moment, avant même que les difficultés ne soient surmontées. Partageons ainsi notre foi avec le reste du peuple de Dieu, tout comme Gédéon finit par partager la sienne avec les 300 hommes chargés avec lui de lancer la bataille. Concluons également que tous les membres du corps, y compris ceux qui ne sont pas sélectionnés pour l'action initiale, sont appelés à s'engager dans l'action de notre Seigneur. Les ennemis sont nombreux. Matérialisme ambiant, égoïsme, mauvaise éducation, tentation omniprésente, terrorisme des extrémistes, la course contre la montre qui semble laisser si peu de temps pour vivre, pour réfléchir pour Dieu. Notre propre lâcheté face aux idées hautaines et majoritaires des médias humanistes. Mais la vie changée de tout le peuple de Dieu, cette vie active dont Dieu veut se servir pour accomplir petit à petit sa victoire. Voilà le défi que Dieu nous lance à travers le triomphe de ce héros si faible et si faillible appelé Gédéon. Je vous invite à prier. Seigneur, que tu es grand, que ton œuvre est grande, que ta victoire à la croix est merveilleuse, et que nous sommes obstinés, Seigneur, à vouloir nous arracher ne serait-ce qu'une petite part de la gloire. Seigneur, nous te devons tout. Tout comme Gédéon te devait ses dons et ses capacités, mais aussi toute la victoire. et tu as pu te servir de lui, comme tu veux aujourd'hui te servir de nous. Seigneur, apprends-nous à repérer l'ennemi. Apprends-nous à ne pas en avoir peur, parce que quel que soit le nom de l'ennemi, c'est toi qui es souverain, toi qui as compassion de ton peuple, toi qui donnes la victoire. Loué soit ton nom, en Jésus-Christ. Amen.